Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Le 13 octobre dernier, Hubert Reeves, un des pères de l'astrophysique française, redevenait poussière d'étoiles. Professeur de physique nucléaire à l'Université de Montréal et conseiller de la NASA au début des années 60, il débarque en Belgique puis en France en 1965 sur invitation du CNRS qui lui offre un poste de directeur de recherche. En 1971, il publie avec deux de ses étudiants un article qui révolutionne notre connaissance des éléments produits au cours de la vie des étoiles. À la même époque, il démontre un talent incroyable pour la vulgarisation scientifique que le conduira un peu plus tard sur les plateaux de télévision et notamment les inoubliables Nuit des étoiles qui ont marqué toute une génération dont je fais partie et qui restera indissociablement liée pour moi au souvenir impérissable des nuits d'été passées à scruter le ciel en famille pour avoir la chance d'apercevoir au moins une étoile filante. Aujourd'hui encore, Patience dans l'azur et Poussière d'étoiles restent des classiques pour les amoureux du ciel, à l'origine de bien des vocations. Et peut-être est-ce le cas de notre invité. Il est chercheur au laboratoire Univers et Particules de Montpellier. Nous l'avions reçu dans ce studio en 2021 pour parler d'une toute jeune exoplanète découverte grâce à Spirou, un spectropolarimètre et chasseur de planètes développé pour le télescope Canada-France-Hawaï. Nous le retrouvons aujourd'hui pour parler de champ magnétique stellaire et plus particulièrement du champ magnétique d'Adée Léonis, une naine rouge. Avec nous aujourd'hui, Julien Morin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Son champ magnétique à elle l'a fait toujours revenir sur les ondes du 93.9. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous poursuivons notre découverte de la station méditerranéenne, environnement du littoral. Et pour ce deuxième épisode, c'est Gérard Sposito qui nous emmène dans la halle d'aquaculture. Pas d'invité de dernière minute cette semaine, puisque l'agenda des événements est un peu plus léger en raison des vacances scolaires. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alors Julien Morin, vous aviez envie de réagir peut-être au lancement, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Ça me fait très plaisir que vous mentionniez Hubert Reeves, parce que je pense que c'est vraiment dans ma génération, beaucoup d'astrophysiciens qui ont choisi ce métier ou qui ont été intéressés à l'astrophysique grâce à lui. Donc c'est vraiment un passeur de science formidable et ça me fait plaisir que vous lui rendiez hommage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous et qui, pour beaucoup de gens qui ont envie de faire de la science, a été déterminant. Voilà.
Alors je suis contente parce que je me disais, si jamais c'était pas le cas... Alors, pour commencer cette interview, donc, vous et votre équipe avez suivi pendant 15 ans une étoile appelée Adée Léonis pour mieux comprendre le fonctionnement de son champ magnétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un champ magnétique stellaire, pour commencer ?
Alors, donc, effectivement, vous savez que la Terre, finalement, a un champ magnétique qui nous permet de nous orienter grâce aux boussoles. Et en fait, de la même manière, sur les étoiles, eh bien, on va avoir un champ magnétique qu'on appelle global, c'est-à-dire avec un pôle nord et un pôle sud magnétique. Et donc, c'est ça qu'on essaye de déterminer, en fait. Quel est ce champ ? Voilà, quelle est son orientation ? Où sont ses pôles magnétiques ? Quelle est son intensité ? Est-ce qu'il est plus ou moins intense que celui de la Terre, par exemple ?
Et à quoi ça sert, un champ magnétique, justement, pour une étoile ou pour une planète ?
Alors ce champ magnétique, en fait, l'étoile le génère, donc notamment ces étoiles froides, on en reparlera je pense un peu plus tard, et l'idée c'est que ce champ magnétique va jouer un rôle important dans pas mal de phénomènes qu'on observe, les éruptions stellaires, le fait que ces étoiles émettent des rayons X par exemple, le fait qu'elles aient un vent de particules qui va ensuite arroser en quelque sorte les planètes qui sont en orbite autour d'elles. Donc tout ça c'est très important pour comprendre l'étoile, son évolution et puis son système planétaire qui l'entoure.
Alors justement, le champ magnétique du Soleil, il est bien connu. Il a été observé dès le début du XXe siècle, en 1908 exactement, par l'astronome George Hall. Il a fait cette découverte en observant des taches à la surface du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces taches qu'il a observées ?
Oui, alors ces taches, effectivement, c'est la principale chose qu'on voit quand on observe le Soleil. Depuis le début du XVIIe siècle, quand Galilée a fait les premières observations du Soleil avec sa lunette, avec un filtre un peu rudimentaire à l'époque, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, auquel il faut faire très attention si vous observez le Soleil. Je le dis pour les auditeurs, voilà, il faut avoir du matériel spécialisé qui est adapté pour surtout pas s'abîmer les yeux. Et donc, lorsqu'on observe comme ça le Soleil, ce qu'on voit qui est un peu surprenant, c'est que le Soleil n'est pas une surface immaculée, mais il y a quelques petites taches noires. Et puis on voit que ces taches évoluent au cours du temps, déjà à cause de la rotation du Soleil sur lui-même. Et puis, en fonction des moments où on observe le Soleil, bien des fois, il y a très peu de taches, presque aucune, voire aucune. Et à d'autres moments, il y a énormément de taches. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui est très variable dans le temps et qui a tout de suite en fait, attisé la curiosité des astronomes.
Alors, 10 ans après la découverte de ces taches, justement, en 1919, les astronomes de l'époque arrivent à la conclusion que le Soleil connaît un cycle d'activité magnétique de 11 ans. Alors déjà, comment on en arrive à cette conclusion et qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle ?
Alors effectivement, comme je le disais, les astronomes ont ensuite suivi finalement ces taches solaires, leur évolution au cours du temps. Et finalement, c'est la série temporelle, comme on dit, la plus longue qu'on a pour nous les astronomes. C'est-à-dire pendant plusieurs siècles, on a observé le Soleil, comme ça on a des relevés très réguliers. Donc on voit que le nombre de taches varie de manière cyclique. Et qu'en gros, tous les 11 ans, on a un maximum de nombre de taches. On est que le Soleil est le plus actif, ce soir-là, il est à son pic d'activité. Et puis au contraire, tous les 11 ans, on a un minimum d'activité où le Soleil est très peu actif. Il y a très peu de taches, voire aucune à la surface du Soleil. Et donc ce qui a été observé par ces astrophysiciens du début du XXe siècle, c'est que finalement, eh bien, ces taches solaires, on leur associe un champ magnétique. Quand on mesure le champ magnétique de ces taches, on voit que c'est là qu'il est concentré, c'est là qu'il est très intense. Et donc, ils ont fait le lien entre ce qu'on connaissait depuis le XIXe siècle, un cycle d'activité, un cycle de taches solaires, avec un cycle magnétique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce cycle d'activité solaire, lui, a environ donc, une période de 11 ans. Et le cycle magnétique, lui, en fait, pour être précis, on dit qu'il a une période de 22 ans, parce qu'à chaque fois, en fait, les polarités s'inversent entre deux cycles d'activité. Voilà, donc c'est ça le principe.
Alors, cette inversion de polarité, justement, ce phénomène, on l'appelle aussi la théorie de la dynamo. On a lu ça dans votre publication. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres étoiles que le Soleil qui présentent ce type de cycle avec inversion des pôles ?
Alors effectivement, ce qu'on appelle donc cette théorie de la dynamo, hein, c'est donc ce processus qui permet de générer le champ magnétique des étoiles. Et une des caractéristiques des champs magnétiques générés par effet dynamo, c'est effectivement ça, c'est qu'on va avoir une inversion régulière, souvent des polarités. Alors soit régulière, soit dans certains cas un peu chaotique, aléatoire des polarités. Donc finalement, parmi les étoiles, on sépare les étoiles chaudes, entre guillemets, et les étoiles froides. Donc le Soleil fait partie de ces étoiles froides. Et parmi les étoiles qui sont les plus froides, donc comme le Soleil, eh bien on va avoir ce champ magnétique qui n'est pas un champ fossile. C'est pas comme dans un aimant permanent où on a voilà, en permanence le champ magnétique qui a la même forme, les mêmes polarités, la même intensité. Mais ce champ est en permanence régénéré en fait, à l'intérieur de l'étoile. Et donc c'est ça qui évolue assez rapidement sur quelques mois, quelques années. Et on peut avoir, donc, dans certains cas, des inversions de polarité. Et donc depuis les années à peu près 1990, on connaît des étoiles pour lesquelles on voit des cycles d'activité, c'est-à-dire qu'on a des preuves finalement à travers nos observations que le nombre de taches, la couverture de taches varie au cours du temps comme pour le Soleil. Et depuis le milieu des années 2000, en fait, grâce aux spectropolarimètres, aux instruments qui permettent de mesurer directement le champ magnétique, on sait que plusieurs de ces étoiles ont aussi en fait, des cycles magnétiques avec des renversements de polarité comme le Soleil.
Et quand on dit plusieurs, on a un ordre de grandeur à peu près du nombre d'étoiles pour lesquelles on a observé ce phénomène ?
Alors pour l'instant, c'est en termes de cycles d'activité, c'est de plus en plus d'étoiles parce que depuis qu'on a les satellites comme Kepler ou TESS qui permettent de détecter des exoplanètes, eh bien ces satellites permettent d'observer des milliers d'étoiles et de les suivre dans le temps. Donc là, on commence à avoir de plus en plus d'étoiles pour lesquelles on sait qu'il y a de l'activité magnétique et des cycles magnétiques. Par contre, pour les cycles magnétiques, ce qu'on peut observer en spectropolarimétrie, là c'est plus compliqué. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment une poignée d'étoiles. C'est quelques étoiles pour lesquelles on a vraiment une mesure directe de cette inversion des polarités. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez important d'avoir une nouvelle étoile pour lesquelles on pense qu'on va vers ce genre de choses.
Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va revenir donc sur votre publication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Adéléonis, justement ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Quelle taille elle fait ? On a parlé de naine rouge. Qu'est-ce que c'est une naine rouge ?
Alors donc comme je le disais, les étoiles, donc on les classe souvent, on les distingue entre les étoiles chaudes et les étoiles froides, donc les étoiles froides comme le Soleil. Et parmi les étoiles froides, les plus froides d'entre elles, ce sont donc ces naines rouges. Donc ces étoiles, vous voyez, le Soleil, sa température de surface est autour de 5500 degrés Celsius. Et ces étoiles naines rouges, elles, comme leur nom l'indique, elles sont plus petites, elles vont faire environ la moitié du diamètre du Soleil. Et puis elles vont être pareil, moins massives, environ la moitié de la masse du Soleil, jusqu'à même un dixième de la masse du Soleil. Et puis elles vont être plus froides, donc à des températures de l'ordre de 3000 degrés, 3500 degrés. Leur surface environ. Donc ça, ces étoiles-là, on s'intéresse à elles parce qu'en fait, c'est les étoiles qui sont parmi les plus nombreuses dans notre environnement. En fait, si vous comptez les étoiles autour du Soleil, dans les environnements de quelques dizaines d'années-lumière autour du Soleil, en très grande majorité, ce sont des étoiles naines rouges.
Et juste une question sur son nom, pourquoi elle s'appelle Adéléonis, cette étoile ?
Alors c'est vrai que parmi les astronomes, on a des manières un peu particulières de nommer les étoiles. Donc certaines étoiles très brillantes ont des noms propres, souvent qui dérivent du grec, de l'arabe, qui vont être liés à leurs caractéristiques. Donc par exemple, Antares, une étoile, une supergente rouge qu'on voit bien dans le ciel d'été, c'est la rivale d'Arès, voilà, la rivale de Mars, parce qu'elle a une couleur rouge prononcée, elle est très brillante. Et après, pour les autres étoiles, eh bien, elles ont des noms un peu moins poétiques, qui sont voilà, des noms de catalogue ou ce genre de choses. Et donc là, Adé Léonis, en fait, c'est parce que donc, c'est une étoile de la constellation du Lion, et c'est l'une des étoiles variables. Et voilà, on leur donne des lettres finalement en commençant par AA, etc. Et donc là, on arrive à AD Léonis. Voilà.
Alors, AD Léonis, son activité magnétique, vous l'avez dit, elle est assez intense. Vous parlez de 100 millitesla, donc 1000 fois la valeur du Soleil. Est-ce qu'en détail, vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour la mesurer, cette activité magnétique, avec quelle méthode ?
Alors effectivement, comme je le disais, la méthode qu'on utilise pour mesurer les champs magnétiques de ces étoiles, c'est la spectropolarimétrie. Alors c'est un terme un peu compliqué qui englobe pas mal de choses, c'est-à-dire que donc, la spectroscopie, c'est lorsqu'on décompose les différentes couleurs, les différentes longueurs d'onde qui composent la lumière qui nous vient d'une étoile. Et la polarimétrie, en fait, on pourrait dire en quelque sorte, c'est quand la lumière, donc finalement c'est une onde, c'est une sorte de vibration, et on essaie d'analyser finalement dans quelle direction vibre la lumière. Donc c'est ça finalement l'idée. Et cette information-là, eh bien, nous permet de mesurer quelle est l'intensité du champ magnétique à la surface de l'étoile, son champ qu'on appelle global, son champ à grande échelle, comme on dit en termes techniques, et puis aussi de mesurer sa polarité, son orientation. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur le champ magnétique des étoiles grâce à cette technique de la spectropolarimétrie.
Alors les instruments que vous avez utilisés, on va en parler un tout petit peu pour faire ces observations, ils s'appellent Espadon et Narval, et celui dont on a déjà parlé dans l'introduction que vous étiez déjà venu nous présenter s'appelle Spirou. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces trois instruments et où est-ce qu'ils sont situés également ?
Oui, donc ces instruments sont des spectropolarimètres à haute résolution qui sont spécialisés donc, pour ce genre d'études, du magnétisme des étoiles, et Spirou en plus pour la recherche d'exoplanètes, comme on l'avait évoqué lors de notre précédent entretien. Et en fait, donc, ces instruments, c'est vraiment une grande spécialité française, en fait, parce qu'il y a peu de ces instruments, de ces spectropolarimètres qui existent dans le monde. Et donc on en a qui sont situés sur deux observatoires français, au télescope Canada-France-Hawaï qui est situé donc, sur l'île d'Hawaï, sur le volcan Mauna Kea. Donc là, c'est Espadon qui est en service depuis 2005 et qui a été rejoint par Spirou en 2018, donc qui finalement fait un peu le même type de mesure, mais dans le domaine infrarouge, là où Espadon travaille dans le domaine visible. Et puis, au pic du Midi de Bigorre, donc dans les Pyrénées, au télescope Bernard Liot. Et là, donc, on a Narval qui est une copie d'Espadon qui est en service depuis 2006. Et puis, il sera rejoint bientôt par SPIP, une copie de Spirou. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a une certaine nomenclature liée à la bande dessinée dans ces noms d'instruments. Et donc voilà, on est très fiers de ça parce que c'est une grande réussite en fait de l'astrophysique stellaire française. C'est ces instruments qui sont très performants, qui sont vraiment inégalés finalement ailleurs et qui nous permettent de faire ces mesures de champ magnétique assez originales.
Alors, donc on va revenir donc sur le champ magnétique. Un de vos objectifs était de voir donc, si Adé Léonis avait elle aussi donc, un cycle magnétique, pas juste un champ magnétique. On sait déjà que les champs magnétiques des naines rouges, elles diffèrent grandement du champ magnétique solaire dont on vient de parler. Pourquoi ?
Alors ça, c'est vraiment finalement, c'est comme ça que je suis entré dans la recherche. J'ai commencé ma thèse en 2006 à Toulouse sur ce thème-là, en fait, donc c'est-à-dire de comprendre pourquoi les étoiles qu'on appelle entièrement convectives, c'est-à-dire les étoiles naines rouges les moins massives, celles dont la structure diffère du Soleil, comment elles peuvent générer leur champ magnétique et comment elles diffèrent du Soleil. Donc pour faire simple, en fait, si vous voulez, le Soleil, il a une structure en fait, où la zone intérieure... il n'y a pas vraiment de mouvement de matière à grande échelle, l'énergie est transportée par le rayonnement, par la lumière, et dans la zone extérieure, c'est ce qu'on appelle une zone convective, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouillonnement, comme dans une casserole d'eau bouillante, et c'est ça qui transporte l'énergie, la chaleur produite à l'intérieur vers la surface. Et donc, dans ces processus dynamo dont on a parlé, il faut des mouvements, en fait, il faut du mouvement de gaz chargé, de plasma, pour générer le champ magnétique. Et donc, c'est dans cette zone convective que le champ magnétique est généré. Et donc, la question, c'est de savoir... comment diffèrent finalement les étoiles entièrement convectives pour lesquelles il n'y a pas de zone d'interface en fait, entre une zone convective externe, une zone radiative interne, comment le champ magnétique est généré. Donc c'est ça la question de base. Et donc sur Adélio, eh bien, l'idée c'est que moi j'avais déjà observé cette étoile depuis 2006 pendant ma thèse. C'était jusqu'ici un exemple d'étoile pour lequel le champ magnétique est très stable. Et donc on voulait revenir pour voir si effectivement le champ magnétique restait très stable sur des décennies ou s'il pouvait y avoir une évolution comme ce qu'on observe sur le Soleil.
Alors, au final, qu'est-ce que vous avez appris de ces années d'observation avec Spirou ? Est-ce qu'Adé Léonis, elle connaît vraiment ce cycle magnétique avec une inversion des pôles comme le Soleil ?
Alors, ce qui a été surprenant, c'est que pendant donc, les premières années d'observation, le champ magnétique d'Adélionis, comme je le disais, était extrêmement stable. Et puis là, donc, sur nos deux années d'observation avec Spirou, eh bien, le champ a évolué très rapidement, avec l'avantage que Spirou, puisque c'est un instrument pour lequel, avec lequel on recherche des exoplanètes, on avait des observations très denses, très régulières. Et donc, on a pu voir vraiment le champ magnétique varier très rapidement, à la fois son intensité variée, également son orientation. Donc, vous voyez que le l'axe du champ magnétique, qui était à peu près orienté avec l'axe de rotation de l'étoile, a commencé à basculer. Et donc c'est ça qui nous incite à penser que peut-être il va y avoir donc un basculement de polarité dans les années à venir, et donc ça nous incite fortement à continuer à observer Adélionis et puis aussi des étoiles du même type.
Et combien de temps il faudrait continuer à l'observer pour peut-être observer ce basculement justement ?
Alors là c'est assez difficile à savoir parce qu'en fait le champ magnétique solaire, comme je le disais, sa période c'est environ 11 ans, donc il faut 11 ans entre deux renversements, donc c'est ça l'ordre de grandeur en fait, environ une décennie. Mais là vous voyez que sur Adélio finalement ça fait 15 ans qu'on l'observe, et pour l'instant on a juste un début de renversement, et en plus certains collectoriciens avaient réalisé des études qui indiquaient que les échelles de temps seraient plus longues pour ces étoiles naines rouges. Donc probablement que ça serait plusieurs décennies au lieu d'une décennie. Donc voilà, probablement qu'on n'en a pas fini d'étudier Adélionis et qu'on continuera à la scruter pendant encore quelques années.
Alors, en quoi l'observation des naines rouges peut aider justement dans la détection d'exoplanètes semblables à la Terre ? Vous en parlez donc dans le communiqué. Et en quoi Spirou, je l'ai dit dans l'introduction, s'appelle le chasseur de planètes. Donc en quoi Spirou peut aider aussi ?
Alors la raison est simple, en fait, c'est parce que quand on a commencé à rechercher des exoplanètes, on s'est intéressé, c'était logique, aux étoiles qui ressemblent au Soleil, autour desquelles on connaissait déjà des planètes. Et à force en fait, de faire ces recherches d'exoplanètes, on découvrait principalement des planètes plutôt massives, des planètes semblables à Jupiter ou à Neptune. On a vu que finalement, si on voulait détecter avec les moyens qu'on avait actuellement, avec la précision qu'on a actuellement, des planètes de petite masse, eh bien, c'est plus facile de les détecter autour d'une petite étoile, elle-même peu massive. Et donc, ce qu'on a fait, c'est l'idée de Spirou, mais également d'autres relevés, hein, comme par exemple les collègues allemands et espagnols de Carménès, c'est d'aller observer ces étoiles naines rouges, qui ont l'avantage en plus d'être les étoiles les plus nombreuses dans le voisinage solaire. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que si on veut détecter des exoplanètes semblables à la Terre, des exoplanètes rocheuses de petite masse, pour le moment, c'est vers ces étoiles-là qu'on se tourne, en attendant le développement de nouvelles missions spatiales, de nouveaux instruments qui permettront de détecter vraiment des planètes jumelles de la Terre, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil.
Merci beaucoup, Julien Morin. Donc, on se retrouve dans plusieurs années pour reparler d'Adélionis, c'est ça ?
Ce sera avec plaisir.
Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage et nous passons du ciel à la mer puisque nous retournons à la semelle, n'est-ce pas Aline ?
Oui, tout à fait. Pour cette deuxième visite à la station méditerranéenne de l'environnement littoral, nous allons découvrir la nouvelle unité de formation en aquaponie. Et c'est Gérard Sposito, chargé de mission au sein du service de formation continue au pôle aquaculture, qui nous explique comment on peut élever des poissons et cultiver des plantes dans un même système.
Alors là, on est dans le hall d'aquaculture où nous faisons tous nos travaux pratiques de formation, donc tout ce qui est production de microalgues, de zooplancton, d'élevage larvaire de poissons, de grossissement de poissons, de maintien de circuits fermés et différents élevages notamment. Et là, on a mis en place depuis, qui a été inauguré au mois de juillet, une petite zone de production d'aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est coupler la production de poissons et la production de végétaux. C'est-à-dire que les poissons, on va les travailler, les élever en circuit fermé. Ils vont polluer le milieu, entre guillemets, donc produire des nutriments, donc azote et phosphore. Cet azote et phosphore, qui est le polluant des poissons, va devenir la matière première pour produire des plantes d'intérêt, donc du basilic. Ça peut être du basilic, ça peut être du persil, ça peut être des plantes à fleurs, des plantes à fruits, enfin voilà, un tas de choses. Donc là, nous rentrons dans la partie piscicole du système aquaponique, où nous avons différents bassins. Donc on a 6 bassins d'élevage, avec 3 espèces de poissons qu'on va produire ici, de la perche, du sandre et du tilapia. Donc du tilapia qui est une espèce tropicale. Donc le système c'est quoi ? C'est des bassins d'élevage où l'eau va être traitée par un filtre mécanique qui va éliminer les matières en suspension, c'est-à-dire les fesses. Ensuite, un filtre biologique qui va transformer la matière, donc l'azote dissous libéré par les poissons, qui est l'azote ammoniacal, NH4, qui n'est pas forcément utilisable par les plantes, va être transformé en nitrate. Et ensuite, ces nitrates vont pouvoir servir d'engrais pour produire des plantes derrière, des plantes d'intérêt. Donc là, en ce moment, on a du basilic, des blettes et du persil. Les 6 cuves que vous voyez, les 6 bassins, donc ces bassins-là, c'est les bassins où il y a les poissons. Donc là, on peut les voir. Voilà.
C'est qui ?
Alors là, c'est des perches. Il y en a à peu près 800 dans le bassin. Voilà, elles pèsent environ, pour moyen individuel, on est aux alentours de 35-40 grammes pour l'instant. La taille commerciale, on va être sur du poisson de 150 à 200 grammes. Là, c'est la taille adulte. Donc on a encore sur la phase de grossissement. Vous avez le bassin de cendres, donc je vais couper là. Alors eux stressent un petit peu plus, donc vous allez voir.
Pardon, mais du coup, avant de nous montrer les poissons, à chaque fois, vous coupez un robinet, c'est l'air. Quoi ?
Là, c'est l'apport d'oxygène. Donc comme on est en circuit fermé, les poissons respirent. Même si bien qu'ils soient dans l'eau, il faut bien qu'ils respirent. Donc il faut pouvoir dissoudre de l'oxygène. Donc c'est une arrivée d'air qui permet de brasser, entre guillemets, d'aérer et d'oxygéner l'eau.
Alors est-ce qu'on porte pas du tout pareil que les perches, ceux-là ?
Pas du tout. En fait, en termes de comportement, ils sont beaucoup plus stressés. C'est un poisson qui est lucifuge, qui n'aime pas du tout la lumière, qui vit dans les profondeurs et qui stresse beaucoup. Son avantage, c'est qu'elle pousse très vite et qu'il y a une valeur commerciale indéniable. Les perches et le cendre, c'est pour ça qu'on a choisi ce système d'élevage, c'est ce système de ces poissons en élevage, puisqu'ils ont un intérêt économique derrière. À savoir qu'en Suisse, les filets de perches se vendent entre 50 et 70 euros le kilo. Alors le cendre va se vendre un peu plus gros. Alors les filets de perches, on va produire des perches entre 200 et 250 grammes, faire des filets. Les cendres, on va plutôt produire des poissons beaucoup plus gros, d'un kilo et demi à 2 kilos. Et ici, vous avez les tilapias, le sarotherodon, mélanotheron eudélotti, qui est une espèce tropicale. Alors sa particularité, c'est qu'elle est euryaline. C'est-à-dire qu'on peut l'élever aussi bien en eau de mer et en eau douce. Donc elle supporte des teneurs en sel très très élevées, entre 0 et 120 grammes par litre. Donc à savoir que la salinité de la mer est aux alentours entre 35 et 38 grammes par litre. Donc c'est une espèce africaine d'Afrique de l'Ouest qui vit dans les lagunes qui peuvent être très salées l'été, donc en période d'étiage, en période de sécheresse, puisqu'il y a évaporation, et en période de pluie, ben justement très peu salée. Et donc ils occupent une niche écologique qui n'est pas occupée par d'autres espèces de cyclidés comme cette espèce-là. Son avantage, c'est que ça pousse relativement vite. Et un autre avantage, c'est qu'élevé en eau de mer, sa chair est très appréciée. Donc c'est, pour l'instant, ce n'est pas encore élevé. On est les seuls à faire ça, on va dire en France et même dans le monde. On essaie de développer, justement, pour les populations africaines, de produire cette espèce-là pour pouvoir utiliser des zones qui sont inutilisables pour d'autres aquacultures.
Alors, là, il y a trois autres poissons, dont un qui ressemble un peu à un jacuzzi. Qu'est-ce qu'on y fait ?
C'est un peu ça. Alors en fait, ici, donc, si on fait le cheminement de l'eau, l'eau arrive par les colonnes. Dedans, il y a des petits modules qui vont remettre à l'équilibre tous les gaz dissous. Donc s'il y a de l'azote, trop d'azote, on l'élimine. S'il manque de l'oxygène, ce qui est le cas, on réoxygène. Ensuite, l'eau arrive, sort par les petites crépines. Là, ce que vous entendez, c'est le filtre mécanique qui s'est mis en marche. Donc l'eau arrive dans le filtre mécanique. C'est un tambour. Ce tambour va éliminer les matières en suspension qui vont tomber ici. Donc ça, on récupère. En fait, c'est l'effet cesse. Hein. Pour faire trivial, c'est le caca des poissons. L'eau ensuite passe dans ce filtre. Alors ce jacuzzi là, ça s'appelle un filtre biologique en lit fluidisé. C'est-à-dire qu'en fait, ça là, ce que vous voyez, les petits modules de plastique, c'est des supports pour les bactéries. En fait, les poissons vont libérer de l'ammoniac. Il y a deux populations bactériennes dedans. On appelle ça des bactéries nitrifiantes qui vont transformer l'ammoniac en nitrite et les nitrites en nitrate. Alors l'ammoniac est toxique pour les poissons. Les nitrites sont très toxiques pour les poissons. L'ammoniac, beaucoup moins. Mais l'avantage, c'est que les nitrates, c'est aussi l'engrais pour les plantes. Donc ensuite, l'eau qui est traitée mécaniquement, on a éliminé les FSS. Traitée biologiquement, on a éliminé l'azote dissous. L'eau ensuite arrive dans le bac tampon où on fait des petits mélanges. Mélange d'eau, hein. L'eau neuve, on chauffe, on contrôle le pH, on contrôle la température, on contrôle tout. L'eau ensuite, elle est pompée, elle passe dans des UV, stérilisateurs UV, et elle retourne au poisson. Donc l'eau a été traitée. Et donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on utilise très peu d'eau pour produire le poisson. Alors que normalement, il nous faudrait, pour produire la même quantité de poisson, au moins 300-400 fois plus de débit d'eau si on était en circuit ouvert. Là, on retraite l'eau. Donc l'avantage, ça permet des économies d'eau indéniables pour produire du poisson. Et en plus, cette eau peut être réutilisée pour produire des plantes. Le bac que vous avez à côté, et c'est ça qui va servir à alimenter les plantes qui sont de l'autre côté. Donc il y a une pompe qui envoie de l'eau sur notre système de production de plantes qui est à côté, qu'on va aller voir. Donc là, on va rentrer dans le système hydroponie. Alors, j'ai dit, l'aquaponie, c'est le couplage de poissons, d'élevage de poissons en circuit fermé, donc pisciculture, aquaculture, et l'hydroponie, la production de végétaux en hors-sol.
Ça basilic, sent super bon.
Basilic, ouais. Ça sent meilleur que là-bas où ça sent plus le caca de poisson. Ici, on a différents systèmes de production avec les rafts, donc les systèmes de radeaux, des systèmes de gouttières. Et là, on en a des blettes, du basilic classique, ça c'est du basilic citron, du basilic thaï, du basilic pourpre qui n'est pas très beau, de la sauge.
Alors j'ai juste une question parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de terre en fait, ça ne pousse pas dans
la terre. Il n'y a pas du tout de terre. Donc ça c'est le système racinaire. On fait germer des graines dans des petits pots, hein, des petites modes de tourbe notamment. Ensuite on les positionne sur ces petits plots. Le système racinaire va aller chercher l'humidité et va récupérer tous les nutriments qui se trouvent dans l'eau. Donc là, en fait, c'est un autre système où il y a juste une petite lame d'eau. Et là, c'est une petite motte de tourbe où on a fait germer aussi. Et donc, c'est la lame d'eau qui arrive ici. Donc, il y a juste un petit millimètre d'eau, hein, pas plus, hein, qui passe dans la gouttière et apporte l'eau, les nutriments qui permet le développement de ces plantes-là. Alors, on peut faire un tas de choses. Ça, c'est un des systèmes de production avec la tout contrôlé, éclairage artificiel avec des LED, température contrôlée, hygrométrie contrôlée, tout est contrôlé. Alors ça, c'est plutôt un système pour faire soit des petites boutures, soit pour faire des espèces végétales à haute valeur commerciale. Parce que le coût d'investissement et le coût de fonctionnement est relativement élevé. En soi, on peut faire de la salade, on peut faire un tas de choses. Mais en soi, c'est pas rentable si on fait de la salade avec ce système-là. La salade, il faudra la vendre très cher.
Il y en a des commerçants qui ont couplé ces deux activités, ouais.
Ça commence à se développer. Il y a pas mal de notamment dans la Drôme, de la ferme intégrale, qui a un projet et commence à produire du cendre. Et là, ils ont une extension pour produire 60 tonnes de cendre par an, couplée à une production hydroponique plus maraîchère. Ça commence à se développer. D'où le fait qu'on ait mis en place un système chez nous ici pour former les futurs producteurs qui vont travailler soit dans ces entreprises, soit qui veulent s'installer pour avoir les ratios, comment gérer un système. Donc le système poisson, le système végétal.
Un grand merci à Aline pour ce reportage. On se retrouve dans 15 jours.
Et bonnes vacances à tous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 15 jours, comme Aline l'a dit, puisque la semaine prochaine, c'est les vacances. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.